Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Victor Hull,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Elle vient du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle est la lauréate 2020 du prix Dior de la photographie et des arts visuels pour jeunes talents. Et voici que la jeune photographe congolaise Pamela Toulizo expose ses œuvres à Paris dans le studio de la Maison européenne de la photographie. Deux séries de photos, Face to Face et Enfer paradisiaque, qui révèlent les femmes de Goma sous un jour différent de ce que reflètent le plus souvent les médias. Des photos pleines de couleurs et d'espoir qui révèlent la puissance et la force de résilience de ces femmes du Kivu dont elle fait partie. L'exposition s'intitule donc Face to Face. C'est au studio de la MEP à Paris jusqu'au 13 mars et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Pamela Toulizo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous de Goma, la capitale du Nord Kivu. Goma, c'est là que vous vivez, c'est là que vous travaillez. C'est une ville que l'on associe souvent à la menace du volcan Nyiragongo, qui a longtemps rimé avec Ebola, qui est aussi un lieu où la violence s'est déchaînée, notamment contre les femmes. On a même surnommé Goma la capitale du viol. Et à travers vos photos, Pamela Toulizo, vous vous intéressez de longue date aux questions liées à l'identité de la femme. Et votre message, donc, dans cette série qui s'appelle Face to Face, c'est de dire en clair, être femme à Goma, c'est ça, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des femmes qui veulent avancer, qui ont du talent, qui ont de la volonté, qui peuvent s'en sortir. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, vous avez bien résumé.
Donc c'est un travail qui se veut tout d'abord un message d'espoir.
Oui, donc Double Identité et Enfer paradisiaque, c'est deux séries que j'ai travaillées pendant 2 ans. Et comme vous avez commencé, vous avez vu comment vous avez introduit la ville de Goma comme capitale du viol, comme Ebola, comme c'est cette identité-là que Goma s'est fait grâce aux articles, grâce aux médias, grâce aux journalistes qui viennent à Goma. Et on comprend que Goma, c'est une ville où on n'a pas envie d'aller, où on n'a pas envie de visiter. Donc c'est ça, c'est là où a commencé ces questionnements autour de la femme au Kivu, de la réputation de la femme au Kivu, qui est réputée comme capitale des viols. Parce que quand il y a de guerre, quand il y a des atrocités comme ça, la femme est la première victime de tout ce qui se passe et son image est très caricaturée, donc c'est un peu compliqué. Donc ça a commencé par ces questionnements-là parce que moi je suis femme congolaise, je vis au Kivu et je suis à Goma et je connais une autre situation que ça, je connais mieux que ça. Et je ne veux pas me voiler la face en disant que la guerre n'existe pas. C'est vrai, la guerre existe. C'est vrai, la violence existe. Les atrocités existent au Kivu. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la guerre. Il n'y a pas que ces atrocités. Il y a autre chose. Il y a des femmes qui ont des rêves. Il y a des femmes qui se battent. Il y a des femmes qui font des choses, mais qui sont ignorées par la presse internationale, qui n'attire pas forcément la presse internationale. Donc cette femme victime, cette femme accessible, cette femme que moi j'appelle entre guillemets facile à manipuler, attire beaucoup plus la presse internationale, peut-être parce que c'est beaucoup plus vendant, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et nous, ça tue cette image ou cette autre vie à côté de la femme du Kivu. C'est comme ça que ça a commencé, cette série Double Identité, mais Enfer paradisiaque est venu après.
Alors, on va parler d'Enfer paradisiaque dans un instant, hein, Pamela Toulizo, mais je voudrais qu'on reste justement sur Double Identité, Face to Face, hein, c'est le nom qui est repris en anglais pour le titre de cette exposition à Paris. Cette presse internationale dont vous décriviez il y a une seconde, le regard qu'elle porte le plus souvent sur ces femmes du Kivu et singulièrement les femmes du Goma, les femmes de Goma, cette presse internationale, vous l'interpellez aussi à travers quelques-unes des photos de cette série. Par exemple, vous avez découpé des petits bouts de papier avec dessus les logos des grands médias internationaux, de presse écrite, de radio, de télévision, et vous les avez collés sur une femme mannequin. C'est une façon de dénoncer justement les étiquettes que ces mêmes médias internationaux collent aux femmes de Goma ?
Exactement. Donc au fil du temps, la femme du Kivu n'a pas cette identité qu'elle a. C'est vrai qu'elle vit double vie, mais ses étiquettes, ses articles, ses titres, ses gros titres de journaux sont devenus sa nouvelle identité. Et aujourd'hui, la femme du Kivu se retrouve en train de disparaître derrière ces étiquettes collées par les médias internationaux, d'où les étiquettes sur le visage. Et après, il y a une deuxième photo où on ne voit plus carrément la femme. Oui. On voit ces images qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les journaux. C'est cette identité-là qu'on colle sur la femme du Kivu.
Alors la femme du Kivu, elle est ambivalente effectivement, et cette ambivalence donc entre la femme victime telle que les médias la présentent et la femme héroïne, la femme debout, la femme qui se lève, la femme qui peut réussir, eh bien vous la matérialisez aussi dans certaines de vos autres photos. Par exemple, il y a la photo qui a été choisie pour faire l'affiche de l'exposition. Hein. On a le mannequin qui pose comme ça face à l'objectif, et on a presque l'impression d'une femme divisée en deux. Vous pouvez nous décrire cette photo ?
Oui, alors c'est une femme qu'on peut voir qu'elle a deux identités, et c'est une photo où on voit beaucoup de couleurs, on voit des expressions de visage pour montrer exactement que dans la vie, que ce soit ici à Goma, que ce soit ailleurs, il y a deux identités. Dans chaque ville, que ce soit à Paris, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis ou ici à Goma, il y a cette double identité. Et ça existe. Mais à Goma, les gens s'intéressent beaucoup plus au côté négatif, à tout ce qui n'est pas positif par rapport à la femme du Kivu. Pourtant, dans chaque ville, ça existe, mais le média joue un grand rôle par rapport à la vulgarisation de la bonne image d'un pays ou d'une ville. Et cette femme, elle porte cette double identité.
Oui, il y a donc d'un côté, on a l'impression vraiment que son visage et même son corps hein, sont divisés en deux. Il y a un côté lisse, propre, un autre marqué, plus sale, plus abîmé.
Exactement, où elle est bien maquillée, où on voit qu'elle rayonne, où on voit la veste est propre et tout. Et l'autre côté où on voit elle est sale, la veste est toute couverte de charbon pour montrer cette lourdeur de la vie qui existe, mais aussi cet autre côté positif.
Un mot peut-être, Pamela Toulizo, sur le positionnement des mains du mannequin.
Exactement. Alors, dans cette série, la mode intervient très fortement parce que ça exprime aussi cet autre côté de la femme où je vais montrer la beauté. Donc le positionnement de main, c'est pour montrer les accessoires que la femme porte, les accessoires de beauté, pour rentrer dans ce côté fashion de la cheveux.
Bon, et puis il y a aussi d'autres photos sur lesquelles vous jouez à plein et vous le montrez, ce qu'on pourrait appeler des effets miroirs. Il y a d'ailleurs des miroirs sur quelques-uns de vos clichés. Je pense par exemple à celui que j'ai devant moi et que l'on découvre à l'entrée de l'exposition à la Maison européenne de la photographie. Il y a une femme qui est de dos, qui porte une lourde charge sur ses épaules et qui se regarde elle-même dans trois miroirs aux bords orangés qui sont posés verticalement à même le sol. Et à l'intérieur de chacun des miroirs, eh bien, la jeune femme est habillée de façon très différente, Pamela Toulizo.
Alors cette photo, elle est très importante pour moi et pour cette série parce que c'est la photo qui montre l'espoir et les rêves de la femme du Kivu. Malgré tout ce qui se passe, malgré les déplacements, parce que la femme qui porte le tapis, c'est un matelas, qui revient pour montrer ces images des femmes réfugiées, des déplacées. Malgré tout ce qui se passe, malgré le déplacement, malgré la guerre, malgré tout, on garde espoir. La femme reste forte. La femme reste avec cet espoir que demain, ça va aller. Et toutes ces femmes ont des rêves. Et chaque femme que j'interviewais, tu vois que la femme, par exemple, est déplacée, mais elle rêve un jour devenir médecin. Elle rêve un jour devenir ingénieure. Elle a des rêves, elle pense que ça va se réaliser. C'est pour montrer que malgré tout ce qui se passe, on garde espoir qu'un jour ça va aller.
Médecin, ingénieur, on pourrait peut-être dire aussi photographe, ce sont des métiers d'hommes. Pamela Toulizo, vous comprenez, j'imagine, pourquoi je vous pose cette question.
Oui. Oui, alors c'était fait exprès parce que à un moment, et ça revient à la série où je travaille pour le moment, le travail est très caricaturé, je vais dire à Goma ou au Congo, par rapport aux coutumes, par rapport à cette injustice sociale envers la femme. C'est des travaux, par exemple, moi, pour devenir photographe, c'était pas si facile. Parce que mon père, quand je lui ai dit, moi, je vais devenir photographe, il a dit, c'est pas possible. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que c'est un travail d'homme. Et toi, tu es une femme, tu dois trouver autre chose. Marie-toi, fais une famille, fais comme tout le monde. Mais photographe, c'est pas possible parce que tu es une femme. Et ça m'a permis de me réquestionner sur moi, sur mon identité, sur qui je suis et c'est quoi mon rôle dans la société. Et être médecin, être par exemple docteur, être par exemple ingénieur, pilote, c'est des choses réservées aux hommes. C'est des secteurs réservés aux hommes. Et je voulais casser, je voulais briser un peu ces stéréotypes sur la femme, sur ce que la femme doit faire.
Mais comment cette idée de devenir photographe vous est venue, Pamela Toulizeau?
Alors, après mes études à l'école secondaire, j'ai eu mon diplôme. Directement, j'ai commencé une formation de journalisme. Qui est d'ailleurs la RFI organisée à Goma.
Oui.
Alors, je participais. Après ça, j'ai commencé mon stage dans une chaîne de télé ici à Goma. Alors, pendant presque 2 ans et demi, 3 ans, j'ai travaillé, mais je ne me sentais pas libre de mes mouvements, de pouvoir exprimer ce que j'ai pensé. Je devrais suivre une ligne éditoriale. Je devrais dire ça et pas ça. Je devrais parler de ça et pas ça. Et pour moi, ça m'est dérangé. Et après, comme j'étais en contact avec l'appareil photo, j'allais sur terrain, je faisais des reportages. Donc pour moi, la photographie, c'était le moyen le plus sûr, entre guillemets, de pouvoir dire à haute voix ce que je pense tout bas sans pour autant le dire.
Et vous avez obtenu une bourse, hein, vous êtes allé étudier en Afrique du Sud, vous avez obtenu un diplôme du Market Photo Workshop de Johannesburg, vous avez donc obtenu, je le disais au début de cette émission, le prix Dior pour les jeunes talents. Est-ce que maintenant votre père, il a changé d'avis? Est-ce que maintenant il est fier de vous?
Je vais dire qu'il est fier, entre guillemets, mais c'est encore un peu difficile. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'en parle, à chaque fois, j'essaie d'en discuter, mais ça reste encore un peu compliqué. Mais ça change énormément de pouvoir voir que je peux vivre de mon travail, je peux faire ce que je veux de mon travail et je reste une femme, je n'ai pas changé. Je suis mariée, j'ai mon foyer, je fais tout ce que je dois faire en tant que femme ou en tant que personne. Donc ça a changé un peu, c'est sûr, mais ce n'est pas à 100%. Même dans la communauté, ce n'était pas que mon père, c'était aussi dans la communauté, c'était aussi les autres photographes qui étaient déjà en place à Goma. Il fallait pour moi faire tout pour me dépasser, pour arriver à aller au-delà de mes capacités.
Je slame. Je vis, je slame. Quand je slame, je réveille mon inconscient longtemps endormi sous effet de l'amertume. Quant à mon âme, je m'imagine sa silhouette en complimentant sa beauté par mes slams. J'use toujours de cette arme pour trancher mes barrières internes et externes qui m'empêchent de vivre en vrai mes slams. Quand je slame, je vis. Et quand je vis à plein temps ces instants longtemps rêvés, mais cruellement restés sur papier. La puissance des écrits varie selon la personne, mais son originalité dépend des sentiments incités par cette même personne à écrire. Je slame, je vis. Je vis, je rame dans une vague violente de mots qui ne font que guérir mes maux et ceux de tous ces gens qui préfèrent mes slams. Atteinte par la voix de Kerry, Rita, l'idole, slameuse de toute une vie, par vos textes je vis mes slams. L'énergie d'Esther, Abumba, Jeanne d'Arc et Eliane me redonne la fierté de faire partie des Goma slams. Mon refrain zigzag entre le faire en chant ou garder son originalité en slam. Mais en attendant que je me décide, ceci sera considéré comme refrain slam vie. Je slame, je vis, je slame. Je slame, je vis, donc on s'y va la vie. Ne cherchez pas à trop savoir pourquoi les slams et pas les chants. Les choix c'est moi donc, j'ai choisi la liberté. Cette plume est à moi, alors faites une réciprocité. En comprenant tout ce qui me motive à faire du slam, je me sens vivante à travers mes textes. Je parcours des kilomètres en encre, en chemin sans barrière. Je trace ma propre route. 10 minutes dans le futur me suffisent pour un check sound, et quelques heures dans mon passé pour demander pardon. Avec ma fée, je me sens libre. Je crie sur tout ce que je cible et j'essaie de vivre le peu de bonheur se trouvant dans chaque interligne. Quand je slam, je vis. Et quand je vis à plein temps ces instants longtemps rêvés, mais cruellement restés sur papier. Je slam, je vis, je slam. Je vis pour marquer des empreintes sur terre, et le slam sera ma source de repère. Ça, je l'espère, je slam. Pour guérir les maux, et ma vie reste ma source d'inspiration dans ce monde à l'envers, je slame.
Slam et vie, Linda Light, la slameuse, qui est elle aussi de Goma dans VMDN sur RFI. La photographe Pamela Toulizo est toujours avec nous en ligne de la capitale du Nord Kivu. Alors vous connaissez, je crois, Linda Light, et j'ai lu d'ailleurs que vous vouliez créer une sorte d'espace de culture et d'éducation autour des femmes à Goma, avec en particulier justement une partie slam, c'est vrai ?
Oui, oui, c'est vrai. En ce moment, on a commencé en janvier, donc j'ai créé cet espace pour la femme artiste, où l'espace sera dédié pour des formations artistiques. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller étudier en Afrique du Sud, mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette chance-là. Donc j'ai créé cet espace pour accueillir les femmes pour de formation artistique, entrepreneuriale, mais aussi sur le droit de la femme. Et il y aura une partie slam.
Alors Pamela Toulizo, quand le visiteur parisien entre dans le studio de la Maison européenne de la photographie, sur le mur de gauche, il y a la série Face to Face qu'on évoquait il y a un instant. Et sur le mur de droite, il y a une autre série intitulée Enfer paradisiaque. Mais avant de la découvrir, il y a quelques images expérimentales, hein, c'est comme ça qu'elles sont présentées, un peu plus petites, et qui sont en quelque sorte le prologue à cette seconde série. Ces photos-là, vous ne les avez pas prises à Goma. Vous les avez prises en Belgique en mars 2020. On était à ce moment-là au début du premier confinement, quand les Européens se ruaient dans les magasins pour faire provision, entre autres, de rouleaux de papier toilette. Alors visiblement, ça vous a beaucoup marqué, puisque vous avez voulu mettre ces rouleaux de papier toilette en scène. Pour quelle raison ?
Oui. Alors quand j'étais en Belgique au premier confinement, je vis tout le monde courir derrière le papier toilette dans le supermarché. Et pour moi, c'était extraordinaire. Je me suis posé tant de questions. J'ai dit, mais pourquoi le papier toilette? Est-ce qu'il n'y a que le papier toilette qui est important? Donc pour moi, j'étais toute seule dans l'appartement en plein confinement. Donc j'ai imaginé la vie qu'avec le papier toilette. Si en Belgique, si en Europe, on se préoccupe du papier toilette, donc il n'y a que le papier toilette qui manque. Donc, il faut vivre avec, il faut le cuisiner, il faut manger, il faut faire des artistes beauté avec le papier toilette. Donc, j'ai mis en scène la vie au quotidien avec le papier toilette. Et c'est là que ça a commencé les raisonnements sur le confinement, sur la crise, sur les gens qui restent à la maison. Si je rentre chez moi à Goma, ça serait quoi la chose la plus importante ? Pour les gens à Goma, pour la population, ça serait quoi cette chose ? Bien sûr, ça ne serait jamais le papier toilette. Et je suis restée beaucoup plus longtemps en Belgique, 8 mois. Après, quand il y a eu l'ouverture de frontières, je suis rentrée chez moi. Et je posais cette question aux gens. Ça serait quoi la chose la plus importante pour vous en temps de crise, en temps de confinement ? Et j'ai eu beaucoup de réponses, et c'est par rapport à ces réponses-là que j'ai construit cette série Enfer paradisiaque.
Et donc il y a les épis de maïs, les haricots rouges, il y a le charbon, il y a les ampoules électriques. Et de tous ces objets-là très importants, des produits essentiels pour les Congolais de Goma, vous avez fait des robes, Pamela Toulizo. Vous êtes donc aussi styliste.
Alors, je ne dirais pas que je suis styliste. Mais j'adore la mode. Moi-même, j'adore la mode sur moi ou sur les autres. J'adore la mode. Mais pour moi, faire les robes, c'est des robes, vous allez voir, vraiment gigantesques.
Oui.
C'était pour moi de montrer cette abondance des choses qui existent au Congo. Parce que le Congo, c'est un pays très, très riche, mais aussi très pauvre. Le fait de prendre les photos dans le marché où tu vas voir sur les tables, il n'y a rien sur les étalages et que sur la robe, il y a plein d'haricots, c'est pour montrer cette abondance des choses et carence en même temps.
Donc le titre s'inscrit là-dedans, hein, c'est « Enfer paradisiaque », le titre de la série.
Exactement, le Congo, c'est le paradis sur Terre, mais les gens vivent l'enfer sur Terre.
Voilà, et c'est vrai que cette jeune femme pose donc dans les rues de Goma, dans des endroits vraiment emblématiques, avec donc ses robes absolument magnifiques. On a l'impression d'ailleurs que vous avez posé votre objectif assez bas en fait. Les photos sont prises en contre-plongée, c'est pour révéler justement cette majesté du modèle ?
Oui, exactement. J'étais allongée par terre, c'était en contre-plongée, certaines photos, et certaines non, j'étais à même avec le modèle. Mais toutes les robes pèsent énormément. C'était fait exprès pour montrer cette lourdeur de la vie au quotidien, pas seulement en temps de crise. Parce que le Covid, ok, le Covid, c'est grave, c'est dans certains pays, ok. Mais pour nous, c'est pas si grave que ça, parce qu'il y a plus grave que ça. Les crises, le confinement et tout, il y a plus grave que ça. Les maladies existent depuis toujours. Donc les gens s'inquiètent. Pas seulement pour le Covid, mais pour la vie de tous les jours. Mais malgré la lourdeur des robes, tu vas voir sur le visage l'expression du modèle, il y a cette confidence, il y a le pouvoir, il y a pas... Le modèle ne montre pas qu'elle est fatiguée ou que c'est lourd. Non, il y a cette conscience en elle que je voulais montrer, que c'est la beauté. Moi-même, je fais le make-up, donc les couleurs, le choix des couleurs des robes qui ressort la vie au quotidien, le vivant du quotidien. Non, le Covid vient juste ajouter aux problèmes qui existent. Donc c'est vrai, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça.
Merci beaucoup Pamela Toulizo. Enfer paradisiaque à découvrir donc en même temps que l'autre série Face to Face, c'est jusqu'au 13 mars à Paris à la MEP, la Maison européenne de la photographie. Merci encore et bonne soirée chez vous à Goma.
Merci à vous.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand. Vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Muriel Mahalouf, Fanny Blechner et Marjorie Bertin, bonjour à toutes les trois.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Alors Marjorie, cette semaine, vous allez nous conduire sur l'île d'Haïti grâce au théâtre avec Les 5 fois où j'ai vu mon père, une pièce de Guy Régis Junior, un seul en scène que vous êtes allé voir à Théâtre Ouvert à Paris. Mais c'est un voyage, disons-le, un peu particulier. Hein.
Mais oui, parce que c'est une pièce sur l'absence en fait. Et en creux, son sous-texte aborde les conséquences de la migration pour ceux qui restent. Ici en l'occurrence, un Haïtien élevé par sa mère, dont le père va migrer en Amérique lorsqu'il est enfant. Alors l'action se passe des années plus tard, devenu homme, à rebours, le personnage raconte son enfance et ses souvenirs avec son père.
Et avant Haïti, Muriel, on fera un petit détour également en Bretagne, à Brest, à la galerie Comédia. Vous avez vu de la lumière, vous êtes entré, et quelle lumière ?
Oui, celle de Yann Kersalet qui, lui, au lieu d'utiliser des pinceaux ou de la terre, comme d'autres artistes, ben lui, c'est de la lumière, mais je vous en dirai un peu plus.
Eh bien, rendez-vous tout de suite.
Vous êtes prêts ? Un ministre accusé de détourner des fonds publics, il démissionne le lendemain. Simple. Un ministre accusé de racisme, lui non plus, il ira pas loin. Basique. Mais un ministre accusé de viol, alors lui, attention, il est présumé innocent. Simple. Apparemment, c'est moins grave de violer les femmes que de voler notre argent. Basique.
Oui, alors effectivement, dit comme ça, ça paraît finalement assez simple. Fanny, cette reprise du rappeur français Aurel San, eh bien, elle est venue clôturer un spectacle que vous venez tout juste d'aller voir à Lyon.
Oui, au théâtre du Point du Jour, c'est dans le cadre du festival Grand Reporter, c'est la 5e édition. Chaque année, un metteur en scène et un journaliste sont invités à travailler ensemble sur une question de société. Cette année, vaste question, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? Pas facile comme ça d'avoir une réponse ferme sur la question. Là, c'est une réflexion qui est proposé sur un peu plus d'une heure. Un projet mené par le metteur en scène Étienne Gaudière et la journaliste Julia Foyce, qui a d'ailleurs travaillé quelques années ici à RFI.
On s'en souvient, bien sûr.
Et ici, elle incarne son propre rôle. Alors, il faut imaginer un décor très sobre, fait d'affiches sur le fond du plateau, affiches de films, de livres, de journaux aussi. Et Julia Foyce, elle vient apporter des données très factuelles, comme dans cet extrait qui reprend le post Instagram de la youtubeuse Marie Coquille-Chambel lorsqu'elle a porté plainte après avoir été agressée par un acteur de la Comédie Française.
Lorsqu'il y a des rumeurs, il ne se passe rien.
10% des victimes de violences sexuelles portent plainte.
Lorsqu'il y a plainte, il ne se passe rien.
9 fois sur 10, elles disent la vérité.
Lorsque l'instruction est ouverte, il ne se passe rien.
1 à 2% des viols finissent par une condamnation aux assises.
Et lorsqu'il y a condamnation, il ne se passe rien. Lorsque la personne sort de prison, elle revient.
Aujourd'hui en France, une femme est violée toutes les 7 minutes. Depuis le début de cette soirée, il y en a eu 6 de plus.
Et parmi les autres chiffres glaçants, celui-ci, au moins une femme sur deux a subi au moins une fois, au moins une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. Forcément, pour Julia Foyce, ces chiffres, ils doivent déclencher une réaction.
À partir du moment où vous mettez le nez dans le sujet, pardon, mais comment est-ce qu'on peut rester neutre ?
Mais alors, ça veut dire, Fanny, que la pièce à laquelle vous avez assisté, eh bien, c'est une pièce militante ?
Oui, on peut le dire. Ce n'est pas un gros mot, m'ont redit les auteurs du projet. L'art, en tout cas, doit se saisir de ces questions de société. Un avis que partage la comédienne Marion Eschleman.
En tout cas, ce qui est important, je pense, c'est que le théâtre et l'art, en règle générale, ne soient pas hors sol. La chute Adèle Haenel, elle en parle. C'est qu'il faut rester en prise avec une réalité et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que tout le monde doit parler de ça ou ne faire que de l'art politique et militant. Encore que politique, peut-être que je pense que si, un petit peu, mais bon.
Et le metteur en scène, Étienne Gaudière, a l'habitude d'ailleurs de se saisir des questions d'actualité au sens large du terme.
Oui, d'ailleurs, avant cette pièce, il s'est par exemple intéressé à Wikileaks.
C'est une matière que j'utilise beaucoup. Après, c'est la première fois, évidemment, que je travaille avec une journaliste écrivaine. C'est-à-dire que Julia, elle écrit, tu m'as même écrit des bouts de dialogue, enfin, ça, c'est un énorme plus.
Moi, j'étais très intriguée, et d'autant plus que j'ai passé un long moment à pas du tout savoir ce qu'Étienne allait faire de toutes nos discussions. Donc, il m'a embarqué dans le truc, et moi, à chaque fois que je rentrais à la maison, mon mec me disait « Mais t'as compris ce que vous allez faire ?» Je disais « Non, mais c'est pas grave. » Je sais que ce sera bien.
Bon, alors au final, ça donne quoi, Fanny ? Une pièce linéaire, un peu fouillie peut-être ?
Alors je dirais plutôt une succession de scènes. Il y a des lectures de textes de Virginie Despentes comme de Catherine Deneuve. Il est aussi question du MeToo théâtre, de la culture du viol entretenue par les œuvres artistiques. Puis il y a aussi des questions finalement assez pratiques que l'on peut se poser. Là, par exemple, il est demandé au comédien Jean-Philippe Salerio d'imaginer ce qu'il ferait s'il avait 34 ans et qu'un casting lui était proposé avec Roman Polanski, le réalisateur, vous le savez, accusé de viol.
C'est un gros rôle.
Bah, ça change quoi ?
Bah, ça change quoi ? Ça change tout. Un gros rôle, ça change ma vie, quoi. Alors, bon. Je fais quoi ?
Eh bah, je sais pas.
Bah, conseille-moi. Bon, je fais quoi, moi ?
Alors,
bon, allez.
Donc,
bon, eh ben, non, j'y vais pas.
Tu vas pas ?
Non, je n'y vais pas.
D'accord.
C'est tout. Je veux pas tremper là-dedans. Ça ne me regarde pas. Voilà. Je dis que je suis malade. Bah tiens, tu vois l'excuse.
Je vois bien.
Bon, Covid.
D'accord.
Alors là.
Bon, alors, attends. Roman Polanski te dit que si tu fais son film, il va te présenter à plein d'autres réalisateurs. Et il va te présenter à ton réalisateur préféré, à Haneke.
Alors, oh non !
Essaye !
Oh non, ben là, je dis oui. Non, non, mais je dis oui. Je dis oui, merde !
Roman Polanski, on en a évidemment beaucoup parlé, hein, on s'en souvient, lorsqu'il s'était vu attribuer un César, alors même qu'il y avait ce contexte d'accusation.
Et la piste avancée ici, c'est que la vraie question à se poser, c'est peut-être, faut-il dissocier l'œuvre de l'homme plutôt que l'homme de l'artiste ? Mais on est loin de l'idée d'effacer tout le monde, la question d'ailleurs n'est pas simple.
Arletty.
Ah bon ?
Collaboration avec les nazis.
Ah, bah on jette.
On jette ? Ok. Coco Chanel, pareil, collaboration avec les nazis, espionne même.
Bah merde.
On jette.
Coco Chanel.
Ouais. Co-collaboration. Pardon. Pardon, je reprends. Le Corbusier, militantisme fasciste.
Putain, mais ils ont tous collaboré avec les nazis au début de l'alphabet ou quoi ?
On jette, ok. Louis Ferdinand Céline, antisémite notoire, a même été déchu de la nationalité française.
On jette,
ok. Bertrand Cantat.
On jette.
Ah bah non, attendez, Cantat il a purgé sa peine, c'est pas pareil, on garde.
Alors on garde.
Ok. Bon, alors ce compte-là, on garde aussi Arletty parce qu'elle a purgé sa peine, elle s'est même exilée en Suisse après sa condamnation.
Bah, on garde Arletty.
Et on garde aussi Céline parce qu'il a aussi été condamné, je l'ai dit, il a été déchu de la nationalité française.
Attends, donc, on jette Coco Chanel, mais on garde Louis Ferdinand Céline.
Gauguin, relations sexuelles avec des adolescentes thaïsiennes.
Ah bah, c'est dans tous ces tableaux, on jette.
On jette. Verlaine, tentative d'assassinat sur Rimbaud.
On jette.
Ah non, attendez, elle fait 2 ans de prison.
Ah, bon, bah, on garde.
J'ai peur, j'adore Verlaine.
Oui, bah moi j'adore Coco Chanel.
Non mais c'est quand même moins grave de tuer son amant que de coucher avec les Allemands.
Alors moi aussi j'adore Verlaine, mais ce que souligne Julia Foyce, c'est que autant la société condamne unanimement la collaboration, les homicides, autant pour les crimes sexuels, la réponse politique et judiciaire se fait encore attendre. Ce serait donc aux citoyens de tenter de prendre position. Le spectacle suit donc le carnet de bord d'Étienne Godière.
Assez vite, je me suis rendu compte que c'était une matière intéressante parce que, effectivement, ça montrait justement que la pensée, ça se faisait pas non plus du jour au lendemain, même si j'ai eu des moments, comme on le dit dans le spectacle, où d'un seul coup je réalise certaines choses, mais que ça demande du temps. En plus, le carnet de bord suivait l'actualité. C'était important, je pense, de jouer sur l'identification du spectateur, encore plus masculin, de s'identifier à quelqu'un qui, voilà, qui commence cette espèce d'enquête et puis qui avance avec sa marraine, sa bonne fée.
C'est un chemin, et c'est un long chemin, parce qu'on est tous empreints de cette culture-là, qu'on peut appeler assez basiquement culture du viol. Et donc, on en est des héritiers, c'est une culture qui est millénaire, donc on ne va pas s'en défaire du jour au lendemain, et personne. Et par ailleurs, j'ai trouvé intéressant que ce chemin-là soit fait par un homme, parce que je crois que ce que MeToo interroge bien plus qu'avant, bien plus que les vagues précédentes, c'est les hommes. C'est dire, et les mecs, vous faites quoi en fait? De quel côté vous êtes?
Voilà, Grand Reporter, 5e édition autour de cette question, faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est encore à découvrir aujourd'hui et dimanche au Théâtre du Point du Jour à Lyon, et puis pas très loin de Lyon, à Villefranche, du 26 au 28 janvier. Merci.
Il y a un matin de la nuit, un midi de la nuit, un soir de la nuit. En fait, c'est une période où la lumière artificielle, positionnée sur des formes, des paysages, puisse donner une autre perception des objets ou des lieux.
C'est un artiste de la lumière, comme d'autres artistes utilisent la peinture ou la terre, artiste internationalement connu pour ses œuvres lumineuses. Il s'appelle Yann Kersalé et il est la tête d'affiche Muriel d'une exposition collective, la Nouvelle Vague Bretonne, que vous êtes allé voir. Ça se passe à Brest, à la galerie Le Comédien.
Oui, et c'est un lieu unique par sa singularité et sa beauté. Au départ, c'est un théâtre construit dans le style des années 40, donc après la guerre qui a détruit quasi en totalité la ville de Brest, avec ses colonnades blanches à l'extérieur, ses frises à l'intérieur signées Jean-René Debar, qui a également contribué au Palais de Chaillot à Paris. C'est l'une des architectures emblématiques de la ville portuaire bretonne. Histoire de ce lieu transformé aujourd'hui en galerie d'art par sa directrice Adeline de Montpezat.
Ça a été le premier lieu privé de la reconstruction. D'abord, donc, il a été construit comme un théâtre à l'italienne. Il a ouvert en 1950. Et l'architecte est Ouchakov. Et les fresques, les magnifiques fresques qui sont uniques en France, que vous voyez donc sur la façade et à l'intérieur, au plafond et sur les colonnes, sont de Jean-René Debar, qui était un sculpteur qui voulait réconcilier l'architecture et la sculpture. Donc le lieu a été exploité en théâtre jusqu'en 1962. Et à partir de cette date, il a été transformé en cinéma d'art et d'essai. C'est un lieu complètement mythique pour tous les Brestois, puisque plusieurs générations donc, y sont venus. Et vu la beauté du lieu, lorsqu'il a fermé au début des années 90, ça a été un petit peu un drame culturel pour toute la ville. Et surtout, il a été abandonné pendant près de 30 ans. Et donc, on l'a transformé en galerie d'art contemporain, qui a ouvert en mars 2019. Après 18 mois de rénovation pour le transformer et le sublimer.
Et aujourd'hui, c'est un véritable écrin pour les œuvres sous la garde de Neptune qui veille du plafond du Comédia sur les objets d'art.
Des œuvres donc d'artistes de cette région bretonne pour cette exposition collective.
Effectivement, Jean-François, des artistes rassemblés sous le titre « Nouvelle vague bretonne ».
Pourquoi Nouvelle Vague ? Pour plusieurs choses. La première, c'est que en ce moment, le mot vague est accolé systématiquement à la pandémie. Nous, on aimerait bien que ce magnifique mot soit accolé à l'art. Le deuxième, c'est Nouvelle Vague pour porter un nouveau regard, un peu comme la Nouvelle Vague cinématographique. Et aussi parce qu'à Brest, au mois de février, il va y avoir le premier sommet mondial de l'océan, qui va réunir plusieurs chefs d'État, et ça va se passer dans notre ville. Et aussi, bien sûr, la mer, qui est source d'inspiration pour tous nos artistes. Voilà pourquoi Nouvelle Vague bretonne.
Alors justement, Muriel, est-ce que la mer inspire beaucoup d'artistes dans cette exposition?
Elle est pas mal présente dans les œuvres, notamment dans celle d'Isme, artiste nantaise, qui est aussi navigatrice et dont les magnifiques collages bleus jusqu'à se fondre dans le noir sont inspirés de ses sorties en mer. Yann Kersalé, l'artiste aux sculptures de lumière qui vit à Douarnenez, est aussi marin d'ailleurs. Il évoque l'importance de la mer dans ses installations lumineuses.
La mer est très importante pour moi car j'utilise fréquemment avec mon bateau ou à partir de la terre une captation vidéo des mouvements et surtout de la lumière solaire frappant l'élément par tous les temps, calme ou très agité, mais aussi des ciels, des canopées, des végétaux. Et c'est ces images enregistrées que je repasse dans des systèmes informatiques pour les ralentir, pour les contraster. Ils me servent de matrice pour pouvoir renvoyer ces matières sur les différentes installations que je peux faire, sur des architectures, mais aussi des infrastructures comme des ponts, des ouvrages industriels, ou dans des parcours géopoétiques que je crée dans des espaces de promenade, dans des lieux de déambulation.
Yann Kersalé, exposé en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Europe, il met ainsi en lumière des architectures comme l'Opéra de Lyon ou la Tour Akbar de Barcelone, mais peut aussi concevoir des parcours lumineux inspirés par ces ciels bretons et l'océan.
Oui, parce qu'en Bretagne, il y a la mer qui inspire les artistes, mais il y a aussi la terre.
Tout à fait, Jean-François. Effectivement, Jean-Paul Taéron habite, lui, dans les terres, il expose ses sculptures, comme ce parallélépipède rouge surmonté de cornes à l'entrée de la galerie Le Comédia.
Je crois que ça correspond en effet à mon environnement. J'habite à la campagne et où j'ai mon grand atelier, mais dès que je sors de chez moi, j'ai les champs, les troupeaux, les vaches, les animaux. Et évidemment, tout cet environnement-là me touche. Et bon, donc il y a à la fois ce contact direct avec ce que moi je vis, et puis dans cette idée de corne, de taureau, bien entendu, on se retrouve aussi avec des connexions en relation avec les mythologies, que ce soit le Minotaure ou les mythologies celtiques, nordiques également, on peut retrouver des présences animales, et dans bien d'autres encore.
La Nouvelle Vague bretonne, une exposition qui mérite le détour par Brest pour découvrir une scène artistique riche et une très belle galerie.
Avec donc cette galerie d'art qui s'appelle Le Comédia et cette exposition collective qui se tient jusqu'au 16 avril. Et c'est donc en Finistère à Brest. Ça y est, j'ai des envies de Bretagne maintenant.
Mais oui, il faut y aller.
La cinquième fois où j'ai vu mon père, c'était la dernière fois. Suis-je d'ailleurs si sûr de l'avoir vu cette fois? Était-ce bien lui que j'avais entrevu au loin? Tout était si trouble. L'atmosphère, le village, tout le pays était trouble ce jour-là. Il y avait mère. Elle était de l'autre côté de la rue. Un homme était debout près d'elle, en partance. Un monsieur tout habillé. Au bout de son bras, une malle en bois, dans laquelle on mettait tout à cette époque. De loin, on aurait dit mon père. Ce monsieur, sa silhouette, c'était mon père.
Alors c'est assez paradoxal, hein, semble-t-il, Marjorie, puisque là, on a entendu une histoire terrible qui commence sur une musique plutôt joyeuse.
Alors, c'est le premier point fort de cette pièce. De l'émotion, mais aucun pathos. La cinquième fois où j'ai vu mon père, de Guy Régis Junior, c'est un seul en scène, autobiographique, une digne et poignante lettre au père. 40 ans après l'abandon de celui-ci, le personnage narrateur revient donc sur les 5 fois où il a rencontré cet homme énigmatique avec lequel il ne vivait pas. Et sur une enfance haïtienne, pleine d'absences, d'attentes et de non-dits. Alors la famille, elle apparaît de façon obsédante hein, sous la plume de Guy Régis Junior, et je l'ai rencontré à Paris après le spectacle.
Peut-être un défaut d'ancien étudiant de sociologie ou de sciences humaines qui pose la famille comme la première cellule sociale. Alors que Genet, il dit lui, la famille, c'est la première cellule criminelle. On a l'impression que tous les mots viennent de là. C'est un peu freudien aussi de penser comme ça, mais en même temps, comme cellule, c'est intéressant puisque l'éducation, l'instruction, l'évolution d'un enfant commence déjà dans la famille. Et cet enfant-là, c'est lui qui va devenir le citoyen de demain. Donc je me pose la question de la famille haïtienne. C'est une famille post-dictature qui a aussi vu depuis les années 60 les pères partir, les mères rester.
Alors, on l'aura compris, c'est une écriture qui est sinueuse, qui est très polyphonique. Et pour interpréter cet adulte, évidemment, il fallait un comédien exceptionnel. Guy Régis Junior a eu le nez fin. Il a spontanément fait appel à Christian Gonon, un acteur du Français que vous appréciez beaucoup en plus, Jean-François.
Oui, j'aime beaucoup, effectivement.
Et là, mais il est évidemment extraordinaire. Alors, sans décor, si ce n'est une chaise et de temps en temps, derrière lui, quelques secondes d'un dessin animé aux peintures saisissantes qui évoquaient Haïti. Alors, Christian Gonon, chevelure grisonnante, petite barbe de 3 jours, veste de costume ouverte, il va se métamorphoser et il fait son chemin dans l'histoire, d'état en état, seulement parfois accompagné par la pluie qui pouvait tomber lors de son enfance ou par des réminiscences de rires d'enfant. C'est comme ça qu'il va nous immerger dans l'esprit d'un homme qui se souvient. Il revit des bribes, s'accroupit à hauteur d'enfant, justement, raconte des dialogues de ses parents dont il se souvient, le tout empreint d'un certain fatalisme dans un pays, on le sait, qui est accablé et dont les habitants sont pris en étau entre crise politique et climatique.
Justement, je me souviens très bien que le mauvais temps venait de passer. Un cyclone avec pour prénom celui d'une jeune femme, Sophia. Sophia nous avait menacés, mais pour tout dégât, elle n'avait avachi que quelques arbres. Et puis, même lors de ces mauvais temps-là, les gens ne se montraient jamais si agacés. Ils attendaient que cela passe et reprenaient leur vie paisiblement. Que pouvaient-ils faire de toute façon? On ne peut rien. On ne peut rien contre ces temps-là.
Et vous évoquiez à l'instant, Marjorie, la question politique. Elle est traitée comment?
Mais alors justement, c'est allusif et très ténu. Alors bien sûr, on comprend, ça passe à travers la famille. On comprend que le père ne part pas sans raison. Il quitte sa mère patrie, en l'occurrence lui aussi, ce n'est pas rien. Et ce n'est jamais abordé frontalement, sauf ici, par la radio, et l'on n'en saura pas plus.
Le scandale provoqué aux États-Unis, dans toute la presse américaine, par la présence sur cette petite île déserte d'une centaine de réfugiés haïtiens, de Boat People. Si le gouvernement des Nations Unies ou le gouvernement des États-Unis ne s'engageait pas à prendre en charge la totalité des 40 000 réfugiés haïtiens à Bahamas.
Alors Guy Régis Junior n'écrit pas, et je crois que c'est vraiment toute sa force, un théâtre didactique. C'est une écriture qui est vraiment sensible, qui est très poétique, très métaphorique, tout en étant très concrète et qui soulève aussi des thèmes existentiels, m'a expliqué Christian Gonon.
Quel est notre manque à nous quand il dit « petit déjà, on hait ce qui nous manque ». Qu'est-ce qui nous a manqué enfant ? Qu'est-ce que maintenant à l'âge adulte, on s'est fait avec quoi ? L'absence ou la présence ? Un manque d'amour, peut-être même quand il y avait l'absence d'amour. Parce qu'on peut avoir ses deux parents toute sa vie et sans amour. Et c'est plus complexe que la seule présence physique. Quel est le rapport avec ceux qui nous ont mis au monde? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Enfin voilà.
Mais bon, c'est aussi une écriture, évidemment, sans doute, hein, difficile à jouer. Elle est sinueuse comme les méandres face à la mémoire.
Ça a été très très long et je dirais à gestation très très lente. J'ai fait des lectures il y a 3 ans de ce texte. donc je l'avais un petit peu mâchouillé. Mais en lecture, c'est tout différent. On a un pupitre, le texte est là, c'est très facile. Et c'est en l'apprenant, c'est un peu comme quand on ouvre une voie d'escalade où on met des petits pitons, on met ses échelles, on met... Et là, je dis, là c'est dangereux, donc je vais bien étayer. Là, ça va, la voie est libre pour arriver au sommet de cette première fois. Après, Guy m'a aidé, puisqu'on a travaillé ensemble. C'est toujours étrange, il n'y a rien, mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un petit déplacement dit beaucoup de choses dans un petit lieu. Un regard sur la vidéo, l'attente du noir, une lumière différente, une position de main, tout devient important.
J'ai tant d'amour à te donner. Oh mon pays, mon Port-au-Prince, tu règnes sur mon existence. Tes hanches font danser mon cœur. Je passe ma vie à chanter. Que ce soit lundi ou dimanche, toutes les amours de Port-au-Prince, et je retrouve mon bonheur.
Alors vous l'aurez compris, c'est un fil testimonial sur lequel Christian Gonon marche avec finesse dans ce spectacle, une heure durant, en nous emportant à chaque seconde et non sans mélancolie.
Les cinq fois où j'ai vu mon père écrit et mis en scène par Guy Régis Junior et interprété par Christian Gonon, c'est jusqu'au 29 janvier à Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines. C'est à Paris. Merci beaucoup Marjorie, merci également à Fanny et Muriel.
Merci Jean-François.
Te donner. Oh mon pays, mon Port-au-Prince, tu règnes sur mon existence. Tes hanches font danser mon cœur. Je passe ma vie à chanter. Que ce soit lundi ou dimanche, amour de Port-au-Prince, et je retrouve mon bonheur. Viens donc en Haïti, tu verras des couleurs sous notre soleil.
On se quitte en musique dans un instant. Le journal sur RFI. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi pour parler cinéma, cette fois avec Édouard Baird pour son nouveau film Adieu Paris. Et vous m'en direz des nouvelles.
Préfères-tu la brune ou bien la négresse? Oh, veux-tu le marabout ou la mulâtresse? Tu n'en sais plus.
RFI, la sélection.